Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Real Life. C'est l'épisode 135 qu'on enregistre le dimanche 4 juin 2023. On va vous parler de nouveaux sujets, notamment Matt a un dossier sur le bureau vert. Je ne sais pas s'il va parler de jardinage ou d'écologie, on va voir ensemble. Je voudrais vous parler un petit peu aussi de la langue française. Je sais que c'est un sujet qui va là aussi toucher un petit peu Matt, qui va parler un petit peu de créativité. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de donc te retrouver. Forcément, Matt, je cite tes sujets, donc forcément, tu es avec nous. Comment vas-tu?
Ça va bien. Très heureux d'être avec toi et quelqu'un qui ne devait pas être avec nous ce soir.
Et c'est cool parce que alors vous l'appréciez, vous avez des retours très positifs depuis qu'il est à nos côtés dans Real Life et nous aussi on a un grand plaisir. Et là on avait prévu initialement d'enregistrer sans lui parce qu'il ne pouvait pas être dispo et il nous fait l'immense plaisir d'être à nos côtés pour cet enregistrement. C'est Julien Deret, salut Julien, comment vas-tu?
Salut Guillaume, salut Matt, ça va très bien, ravi d'être avec vous, même si ouais, c'est un peu impromptu mais c'est pour le meilleur, très content d'être là.
Mais c'est très bien. Tu vas jouer le rôle du passager, non pas clandestin, mais officiel, puisqu'on t'a présenté. Et donc, tu vas pouvoir réagir à loisir. Tu sais, c'est les meilleurs épisodes, en fait, ceux-là. Ceux où tu n'as rien de spécial à délivrer et où tu peux te faire plaisir à réagir. Évidemment, on compte sur toi pour nous couper la parole comme il se sied, pour que tu puisses compléter, infirmer ou confirmer nos dires. Comme le veut la tradition, on va vous donner quelques petites infos, justement, sur notre actu. Bah justement, Julien, honneur à toi, qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien en ce moment?
En ce moment, pas mal de choses, pas mal de voyages pour le boulot, en perso. Je sais que tu vas en parler, mais je joue un petit peu à Zelda dès que j'ai un petit peu de temps. Et voilà, je suis un peu en retour aux fondamentaux en ce moment. Je continue à vendre plein de trucs que j'ai un peu accumulés, qui faisaient partie de ma vie à une époque. Mais finalement, je me rends compte maintenant que je les utilise pas trop. Donc voilà, je fais un peu le ménage et puis voilà, je vous partagerai une petite citation en fin d'épisode pour qui va parler un peu de retour aux fondamentaux. On sait que c'est un petit peu la base de dans Real Life et dans Nip Tech.
Effectivement, c'est les copains de chez Nip Tech qui parlent régulièrement des fondamentaux. On se doit de bosser les fondamentaux. Tu vas y contribuer à ta manière et puis tu l'incarnes. Merci Julien. Matt, comment ça se passe au Québec? C'est officiel, hein, il n'est plus question de neige qui fond, ça s'est fait au point que c'est la moto qui tourne à plein régime, non?
Oui, c'est la moto qui tourne à plein régime. Cette semaine, ma conjointe a dit « Mathieu, il faut absolument commencer à préparer la piscine. Ben, » La piscine est préparée, mais il faut mettre des produits, il faut vérifier le pH, faire de la chimie, en fait. Et puis, je me dépêche cette semaine. Pendant que je travaille, sur l'heure du dîner, je vais chercher les produits, je fais tester l'eau de la piscine. Tout, vite, en fin de semaine, il faut se baigner. Tu dis au gars, il faut se baigner en fin de semaine. Il dit « Ah, on va la préparer ensemble. » Alors, deux jours intensifs, on met des produits à chaque heure pendant la noirceur, on se prépare pour la fin de semaine là, au moment où on enregistre, pour se baigner. Et la fin de semaine là arrive et il fait 15 degrés.
Dommage. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a des possibilités maintenant de connecter sa piscine.
Oui.
Tu le sais maintenant, Matt, ça t'est pas venu à l'idée de connecter ta piscine pour lui rajouter les produits automatiquement qui vont bien?
Pas pour les produits, mais pour qu'elle soit chauffée, pour que quand il fait 15 degrés, je puisse me baigner dedans. Alors oui, je vais le faire. Regarde, je vais faire un appel à tous, à la communauté Real Life, qui est fort éduquée et fort connaissante de certains trucs. Si vous avez de l'information sur des chauffe-eau à piscine solaire, je suis très intéressé par votre retour.
Très bien. Eh bien, écoute, super. J'imagine que... Alors, tu peux écouter d'ailleurs Coticast, le podcast de notre ami Gaëtan qui parle de piscine et de panneaux solaires connectés. Il y a peut-être pas la réponse à toutes tes questions, mais je suis à peu près sûr qu'il aura peut-être des pistes de réponse à nous donner. Je vous laisse vous mettre en relation. Je complète ce tour de piste de l'actualité pour effectivement dire... je rebondis, Julien, parce que effectivement, je me suis moi aussi plongé dans Zelda Tears of the Kingdom, qui est le dernier jeu de la Switch. Vraiment, je pense qu'il va marquer les esprits. Bon, il est à la hauteur, hein, je pense, de ce qu'on pouvait attendre. Et c'était pas gagné. Un nouveau Zelda après Breath of the Wild, vu ce qu'il avait apporté dans l'univers du jeu vidéo, c'était peut-être compliqué de renouveler le succès. Et je trouve que c'est remarquable ce qu'ils arrivent à faire. Et c'est vraiment chouette, parce que moi, j'avais pas cette image-là il y a... pas mal de temps maintenant de Zelda. C'est vraiment un jeu qui est pensé pour faire des petites sessions de 15-20 minutes, en fait.
Ouais.
Je trouve que les sanctuaires, les explorations, faire un peu de cuisine, tout ça, ça se prête à faire 15-20 minutes, alors que moi, j'avais pas ça en tête. En fait, c'est comme Breath of the Wild là-dessus, mais j'avais pas ce souvenir-là avec Breath of the Wild. Donc, bah, n'hésitez pas, si jamais vous faites partie de ces personnes qui disent « J'ai pas le temps, mais je veux faire les jeux marquants un peu emblématiques du moment », Zelda Tears of the Kingdom, c'est probablement une très belle expérience si vous êtes sur Switch. L'actualité est assez chouette en ce moment. Je me suis un petit peu mis aussi à Obsidian, alors à titre pro notamment, parce que les fichiers sont hébergés en local et je travaille dans un environnement où la sécurité est le critère numéro un de toute décision. Et héberger des contenus sur le cloud, c'est pas toujours facile, pas toujours évident chez nous. Et Obsidian me permet de structurer les choses. Je découvre l'outil, il est plutôt cool en fait. On en avait déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'on pourra revenir dessus parce qu'il y a des chouettes propositions d'usage avec cet applicatif. Et puis, bah, Matt, de toute façon, on va se retrouver là demain, ouais. Après-demain, pardon, pour enregistrer un épisode crossover de Tech Café et d'Apple Différemment avec Audrey Coulot. Alors, au moment où vous écoutez cet épisode, il y a de bonnes raisons de penser que l'épisode sera dispo. Peut-être qu'Apple va nous révolutionner les usages de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. On vous en parlera. On fera notre petite restitution. Vous pourrez aller écouter soit Apple Différemment, soit Tech Café et vous aurez l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et puis un dernier mot, je voudrais en profiter pour les plus technophiles d'entre vous et j'allais dire la population autour de ceux qui travaillent dans la technologie, dans les entreprises notamment. J'ai fait un épisode spécial avec l'UNEDIC, qui est une association en France qui collecte les cotisations pour le chômage et qui verse les cotisations chômage et qui verse, pardon, les indemnités chômage, je cherchais le mot, et en fait, on a parlé d'open data, parce qu'ils ont pris un gros virage là-dedans, et moi, je connaissais finalement très mal l'open data, j'ai appris beaucoup de choses, c'est, je pense, un très très chouette épisode que je vous invite à aller écouter dans Tech Café, vous le retrouverez facilement dans le flux du podcast. On a des interactions et ça, c'est toujours le bonheur. On a changé. Alors, je dois dire, je vous en ai même pas parlé, Julien et Matt, je l'ai fait un petit peu en réaction automatique. J'ai changé le titre du dernier épisode de ReLife. On avait mentionné la schizophrénie parce que Julien nous avait parlé de cette proposition d'utiliser des personnages qu'on pouvait se créer pour s'inspirer quelque part et suivre une forme d'état d'esprit différent de l'état d'esprit qu'on peut avoir. Et on a eu un petit retour de Rudy sur Twitter. Très bon épisode comme d'habitude, sauf le titre, beaucoup trop stigmatisant à mon goût, comme décrit dans cet article. Alors j'étais un petit peu creusé l'article, mais de fait, j'étais moi-même déjà un petit peu sensible à ce genre de sujet, mais pas suffisamment pour que je réagisse quand on a défini le titre de l'épisode. Il est vrai que le terme est souvent utilisé de manière un petit peu abusive par les médias, mais aussi dans les études scientifiques. En fait, il y a des études qui sont menées sur l'ensemble des études scientifiques et dans le domaine de la psychologie, sur la schizophrénie. Et bien souvent, le mot de schizophrénie est utilisé sans décrire la maladie vraiment de schizophrénie. Et donc, il y a quelque part un abus de langage, ce qui n'aide pas du tout à la reconnaissance de la maladie et de la situation. Écoutez, on n'a pas cherché à comprendre. Moi, j'ai renommé direct l'épisode. Je pense que c'était aussi bien de réagir vite là-dessus. Et merci d'être vigilant là-dessus pour nous. Ça nous aide évidemment beaucoup. J'ai aussi déterré, et alors là, nostra culpa, mea culpa, je me mets dedans, mais un message privé qu'on avait reçu sur le compte Twitter de ReLife en janvier. On n'avait jamais répondu. C'est pas bien, on fait pas notre boulot. De Céline Guerrero. Elle dit hello Guillaume, mais je pense vraiment que pour le coup, elle s'adressait vraiment à nous au sens large. Elle dit qu'elle découvrait le podcast. Et elle dit, c'est sa partenaire de langue canadienne qui lui en a parlé. Donc moi, j'imagine que ta présence québécoise, Matt, n'est peut-être pas étrangère au rayonnement de ce podcast. Et elle a dit qu'on conseillait des choses pour notamment l'apprentissage pour les auditeurs, pour les langues en anglais, et c'est sa spécialité en fait, elle est anciennement prof des écoles, et elle a un diplôme universitaire en neuroéducation, et elle est passionnée par l'apprentissage, et elle apprend l'anglais depuis pas mal d'années, et elle pivote dans son business pour aider les entrepreneurs, je cite son message, à mieux maîtriser l'anglais pour avoir une longueur d'avance dans leur business. Donc déjà je voulais juste la mentionner, parce que c'est une manière de présenter nos excuses quelque part, donc Céline Guerrero. On mettra le lien vers son profil Twitter dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si jamais vous voulez développer votre anglais, notamment dans votre environnement professionnel. Et puis, on a Carole Agé aussi qui a envoyé un message privé sur Patreon. Alors, je vais le citer en entier. Hello les garçons, merci pour ce nouvel épisode toujours très inspirant. Génial les conseils pour mieux utiliser ChatGPT. Matt, je file voir ta dernière vidéo. Guillaume, non mais oh, le percolateur n'est pas une antiquité. Je suis une inconditionnelle comme dans les cafés parisiens à l'ancienne. Pardon, mais tu m'as bien fait rire. Et sinon, bravo pour la démarche et merci pour les réflexions autour de Nespresso. Bref, j'en viens à l'info que je souhaitais vous transmettre. J'utilise des réducteurs de bruit très régulièrement, autant pour ma vie professionnelle que personnelle. J'en ai essayé plusieurs. Il y a une marque que j'ai retenue, deux de leurs modèles que j'utilise au quotidien et depuis plusieurs mois. J'en ai aussi offert à plusieurs membres de ma famille et ils les ont adoptés. Il s'agit de la marque Loop Earplugs, le modèle expérience pour travailler et pour la détente, le modèle Quiet qui est très souple et un peu plus efficace. Comme ils se disposent à l'entrée de l'oreille, n'entrent pas très profondément comme des boules-caisses, ils ne sont pas très invasifs, ils sont très confortables, efficaces et même assez jolis et se portent un peu comme un bijou, ce qui ne gâche rien. À bientôt. Merci, on n'est pas du tout sponsorisé, j'espère, Carole non plus, pour relayer ce message, mais comme on avait abordé un petit peu les réducteurs de bruit, c'était intéressant de mentionner ça. Je ne sais pas, Julien ou même Matt, si jamais ces marques vous parlent.
Ouais. Ouais, moi je reçois depuis pas mal de temps beaucoup de pubs sur Instagram pour cette marque-là. Et je dois dire que comme j'en ai comme j'en ai déjà parlé dans le passé, j'aime beaucoup, je suis très sensible au bruit et du coup c'est quelque chose auquel je suis assez sensible et je me suis plusieurs fois demandé si j'allais l'acheter ou pas. À chaque fois dans les commentaires, il y a quand même des gens qui disaient que ça marchait pas super bien et pour le prix, ça m'a un peu fait un peu peur. Donc bah, merci pour le commentaire, peut-être que je vais en acheter puis on va voir, je vous ferai un retour en vrai.
Trop bien. Eh ben, écoute, merci Carole d'avoir fait ce retour et puis on verra avec Julien ce qu'il en est. Et je voulais terminer ce tour de piste des interactions des auditeurs de ReLife en faisant un coucou à Valkan qui fait... en fait, il a un petit podcast. Valkan, il nous écoute depuis pas mal de temps. En plus, il aime les jeux de rôle et il en parle assez régulièrement. Donc, vous savez que moi, je suis assez sensible à ce sujet-là. Et il fait sa revue de la semaine de Valkan. C'est assez cool de voir son journal. Je crois qu'il compose un petit peu ses petites notes au fur et à mesure de sa semaine et puis en fin de semaine il enregistre un épisode qui est assez court à écouter et je trouve ça hyper inspirant qu'il fasse sa restitution comme ça de ce qu'il a appris et de ce qu'il a découvert, des vidéos qu'il a lues. J'aimerais arriver à aussi bien suivre mon temps que Valkan. On enchaîne avec les sujets, les vrais, les durs, les costauds préparés pour vous pour cet épisode de ReLife. Matt, est-ce que tu voudrais nous parler de jardinage, d'écologie ou simplement de goût de couleur?
Mais non, en fait, c'est un article que j'ai vu sur le site web du HEC Montréal, des études d'école commerciale à Montréal, qui parlait d'une tendance, le green desking. Dans le fond, c'est le bureau vert. Dans le fond, je vous passerai pas l'article au complet, mais tu sais, à l'arrivée du printemps, peut se révéler propice à une réflexion sur une nouvelle forme de travail. On sait qu'avec le télétravail, il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Ben là, on pourrait peut-être aller travailler dans le jardin, en tous les cas, dans un milieu vert. On en a déjà parlé dans des émissions, je me rappelle plus quel épisode en particulier, mais le vert est très... très bon pour la productivité, la concentration et la créativité. Et le green desking arrive dans cette tendance-là. Ça répond aux mêmes attentes du télétravail au quotidien, c'est-à-dire un peu plus de calme, un peu plus d'endroits pour se concentrer. Dans l'article, on se rend compte que c'est une mode qui est arrivée aux États-Unis à partir de 2010. Alors donc, c'est pas arrivé avec la pandémie, mais peut-être que c'est un petit peu plus intense depuis la pandémie, en fait. Et puis, on cite effectivement des études qu'on a déjà citées dans les épisodes qui parlent du bienfait de l'éclairage naturel, de la proximité avec la nature pour la santé mentale. Ça aide aussi à la concentration et l'implication des employés qui peuvent en profiter. En gros, vous l'aurez compris, c'est se trouver un endroit au vert, comme l'expression, et de travailler dans un milieu extérieur pour avoir la luminosité et pour avoir à la proximité des arbres, des plantes et ainsi de suite. Alors, les avantages dans l'article, ils en parlent, diminution du stress, par un contact prolongé à la nature, ça peut être chouette. C'est beaucoup plus propice à la concentration, la créativité, la productivité, j'en ai déjà parlé. ça permet aux travailleurs de sortir d'une espèce de routine, hein, qui est le bureau à la maison ou le bureau physique. La proximité de la nature, l'air frais, le soleil, les lieux décoisonnés, combinés au fait d'être entouré de certaines couleurs précisées dans l'article, telles que le vert, le bleu, le marron, réduisent effectivement le stress. Et puis, bon, ben, il n'y a pas que des avantages, hein, y a aussi des limites par rapport à ça. Le green desking, j'ai vraiment de la difficulté à le dire. Ben, typiquement, quand on parle de télétravail ou en tous les cas de technologie, ben, il faut avoir ce qu'il faut pour pouvoir y aller dans la nature. Alors, typiquement, une connexion, une bonne connexion, des bons appareils, je me vois mal aller avec une tour et des écrans 32 pouces en forêt pour travailler. Mais une fois qu'on a passé ça, ben, ça peut être aussi une autre limite qui est l'ergonomie. Hein, on a travaillé beaucoup l'ergonomie depuis le télétravail, bien s'asseoir, un bon bureau, et ainsi de suite. Ben, ça fait partie des limites du bureau vert. Et puis, ben, plus précisément, y a des pays qui ont commencé, des États américains qui ont commencé à le pratiquer concrètement. En Allemagne, l'entreprise Outside loue des espaces mobiles qu'elle implante dans différents sites en pleine nature pour stimuler l'inspiration des employés. En Californie, l'entreprise Denizen loue quant à elle des espaces de travail déjà aménagés dans les bois. Et chez nous, au Québec, l'année passée, on a commencé à pratiquer ça plus concrètement. La ville de Montréal a mis en place des espaces verts, des îlots verts qui pouvaient être réservés sur place. Alors, à l'extérieur, c'était composé de plusieurs stations de travail, des salles de réunion en plein air. L'objectif c'était de cette initiative-là, c'était de revitaliser le centre-ville. On se plaint que les centres-villes se sont vidés. La ville de Montréal a pris concrètement les choses en main. Elle a fait des espaces verts à l'intérieur de la ville avec des endroits pour se réunir ou des endroits tout seuls pour travailler, mais dans des espaces verts. Et elle a mis en place un système de réservation. Il y a eu plus de 400 réservations qui ont été faites. 10 000 visiteurs ont essayé le bureau vert. Finalement, c'est un succès. Il recommence en 2023 à la ville de Montréal. Fait que, bref, encore une fois, vous le comprendrez, mon plan machiavélique pour que vous veniez au Canada et au Québec, continue, venez essayer les bureaux verts à Montréal.
Bon, il n'y a pas qu'au Canada qu'il y a du vert, Matt, hein. Attention, j'imagine qu'il y en a un petit peu partout. Mais c'est marrant aussi, peut-être, ce rapport à la nature que ça va nous forcer à avoir quelque part, parce qu'on est tous, encore une fois... C'est marrant, je me fais la réflexion des couleurs, là, je regarde notre échange sur Skype. On est tous les trois dans des environnements alors blancs, plus ou moins avec des touches de couleurs, et on est tous les trois en gris, tu vois. Au passage, je me dis qu'il y a, je sais pas, on a peut-être un côté, j'en sais rien. Mais oui, sans doute que ça doit inspirer un petit peu, et on imagine bien aussi le rapport à la nature que ça doit pouvoir aussi inspirer, compte tenu de la situation qu'on a pour le réchauffement climatique. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est un peu trop déconnecté de la nature maintenant, et ouais. C'est aussi une manière de se voiler la face sur ce qui se passe que d'être systématiquement dans des environnements de bureau un peu neutre comme ça. Donc,
est-ce que, Julien, est-ce que quand tu travailles, toi, parce que tu es un peu plus dans le monde des startups, je m'adresse plus à toi parce que Guillaume est plus dans un milieu traditionnel, je me dis que ça ne doit pas exister vraiment, ou à tous les cas qui n'ont pas expérimenté ça. As-tu déjà expérimenté de travailler en extérieur avec tes collaborateurs, pas forcément en pleine nature, mais tu sais, directement à l'extérieur? Et puis, est-ce que tu as vu des bienfaits? Est-ce que ça stimule quoi que ce soit dans tes collègues?
J'ai jamais vraiment conscientisé le truc, c'est-à-dire que dans certains bureaux on a une terrasse où on peut venir se poser, où il y a internet, ouais. Et ça peut être ça, ou parfois c'est juste par nécessité parce qu'il y a trop de monde dans les bureaux et qu'on veut prendre un rendez-vous, ouais. mais c'est vrai que c'est toujours agréable juste de pouvoir se poser à une terrasse et puis voilà, avoir l'air frais, le soleil, les lunettes de soleil, c'est quand même une autre ambiance, quoi. C'est assez cool. Mais c'est pas, et puis du coup on peut faire des réunions aussi dehors, mais j'y ai pas pensé plus que ça, on va au bienfait et à ce que ça pourrait vraiment apporter. Mais c'est des moments qui sont toujours très agréables, ça c'est sûr. Après, moi j'ai essayé moi-même de travailler un peu à l'extérieur parfois, peut-être d'aller dans un parc, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ben, c'est joli, mais bon, même, il y a toujours des bestioles qui viennent, il y a peut-être des voitures, des oiseaux, des chiens, des fourmis, du vent, du soleil, sur le papier.
Les reflets dans les écrans, hein.
Les reflets dans les écrans, c'est, donc sur le papier, c'est sympa. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, déjà, juste avoir quelques plantes, ce que j'ai pas du tout dans mon bureau, mais avoir quelques plantes sur son bureau, ouais, c'est déjà un bon début.
On va s'équiper de plantes vertes dans nos studios d'enregistrement après cet épisode, j'ai l'impression. Mais cela dit, en vrai, ça me donne envie. Vous voyez, j'ai juste une petite plante là. Et en plus, je vous le dis qu'à vous, mais c'est une plante artificielle en plus. Parce que l'endroit où je suis ne me permettrait pas du tout d'avoir des vraies plantes. Mais cela dit, il y a de très belles plantes artificielles maintenant. Et je vais peut-être m'équiper, même si je n'aurais pas les bienfaits de la nature 100% authentique autour de moi. J'en profite, je rebranche sur le réchauffement climatique parce que je voulais rementionner le livre de Mathieu Blanco que vous aviez reçu. La transition écologique n'existe pas, comprendre le réchauffement climatique et les mensonges politiques dans lesquels nous sommes. J'ai toujours un petit peu peur avec ce genre de titre, d'ailleurs, qu'il y a un aspect un peu, tu vois, soulevons les complots qui nous ont... Bon, en fait, Mathieu est extrêmement pragmatique dans l'écriture de ce livre, et surtout, c'est très clair et c'est pas verbeux, et je l'ai ressorti, ce livre, et en fait, j'en ai lu des passages à mon fils qui ne semblait pas hyper conscient de pourquoi, comment, etc. sur le réchauffement climatique, puisque je disais que probablement que lui, quand il serait vieux, il aurait un climat qui sera sans doute très chaud et ce sera difficile à vivre. Même si on trouve des solutions, ça n'ira sans doute pas assez vite pour qu'il sente des améliorations. Et donc, je lui expliquais tout ça. Et je suis vraiment bluffé de voir à quel point son ouvrage, il est hyper pratique si on le considère comme un support d'échange avec d'autres. Donc, si vous aviez pas écouté l'épisode déjà, allez l'écouter. Mm-hmm. Et si jamais vous aviez pas encore acheté le livre, allez vous équiper et vous pourrez même partager des infos hyper concrètes à votre entourage. Je suis tombé au passage, je vais pas rentrer dans les détails, mais sur un article de Lifehacker. Alors avec Matt, on aime beaucoup ce site historiquement, Lifehacker, mais un truc hyper débile, mais 5 manières, bah oui, c'est rédigé à l'article internet qui fait cliquer, hein. Mais 5 manières pour se préparer à des vagues de chaleur. Et je pense qu'effectivement là, c'est peut-être le bon moment pour commencer à se poser des questions de ce qu'il faut faire pour se préparer pour des vagues de chaleur qui vont arriver et qui seront de plus en plus fréquentes et qui vont peut-être nous tomber dessus là dans quelques semaines. Bon, il y a des choses assez simples auxquelles moi j'avais pas du tout pensé, mais il existe des kits d'isolation pour les fenêtres qui sont prévus pour l'hiver à la base. C'est souvent pour ça qu'on les prend, c'est que ça permet d'isoler un petit peu mieux les fenêtres qui sont pas toujours des trucs qui sont bien isolés, qu'on n'a pas toujours bien pu faire rénover pour se protéger du froid. Bah, en fait, effectivement, ça marche plutôt bien pour la chaleur également, puisque ça fait une isolation thermique. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Bon, évidemment, les petits entretiens sur la climatisation avec laquelle vous êtes peut-être équipé, ben ça vaut toujours le coup de le faire. L'isolation des surfaces supérieures de votre logement sont toujours une excellente idée. C'est souvent des investissements que vous allez faire mais qui vont être forcément rentabilisés. Donc si vous avez un grenier, n'hésitez pas à l'isoler. Et puis l'article, et là ça me faisait penser qu'on arrive vraiment à une ère où ça va devenir de plus en plus compliqué de gérer la chaleur, ben, peut-être que ça peut être intéressant de commencer à repérer des espaces frais à proximité dans votre ville. Si jamais il y a des grosses vagues de chaleur, et surtout si vous avez une sensibilité à la chaleur de par votre âge ou par votre santé physique globalement, peut-être que la chaleur va vous affecter encore plus. Ça peut être intéressant d'aller repérer des espaces de fraîcheur à proximité. Là, je commence à me dire que vraiment, on rentre dans une nouvelle ère où il va commencer à falloir trouver ce type de solution. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a un truc qui est toujours hyper frais. Outre les petites maisons picardes qu'on appelle les amiénoises, qui sont toujours très bien isolées et dans lesquelles on se sent toujours bien au frais, c'est les églises. Alors peut-être d'ailleurs les autres lieux de culte, j'ai pas eu l'occasion d'aller me plonger dans d'autres lieux de culte, mais les églises telles qu'on les connaît en France sont des endroits qui sont toujours mais hyper bien protégés de la chaleur. Il fait toujours super frais, c'est très haut, donc la chaleur peut bien s'échapper, c'est bien isolé, les murs sont bien épais. Si vous voulez avoir des petites sessions de fraîcheur cet été, pensez-y, c'est toujours le bon moment. Et puis, qu'on soit croyant ou pas, un petit espace église au frais pour un petit instant de méditation quand la vie va trop vite, je vous le préconise.
À défaut de travailler en forêt, on va faire du télétravail à l'église, ce sera...
Oui, effectivement, pourquoi pas. Il y a moins de soucis de reflets, vous subissez moins la chaleur, et peut-être que c'est plus calme que les chiens et les fourmis que décrivait Julien tout à l'heure.
Il y a peut-être un peu d'écho.
Desking. Ouais, c'est ça.
Il y a peut-être un peu d'écho pour vos réunions, effectivement. Prenez des micros qui soient adaptés et qui captent pas trop l'environnement sonore. À vous de voir. Je voulais enchaîner avec un sujet sur lequel je suis tombé aujourd'hui, et j'ai été hyper enthousiaste parce que j'ai pu lire, parce que j'ai pu consulter. En fait, je suis tombé sur la dernière vidéo de Linguisticae, vous savez, la chaîne YouTube de Monté qui parle de langue, qui est linguiste, lui qui parle un peu de l'activité des linguistes. Et il a une activité dans ses vidéos un peu récurrente et qu'il a refaite là tout dernièrement, c'est qu'il adore débunker les articles, notamment les articles portés par Le Figaro ou de manière générale par la presse à tendance droite, voire extrême droite, ouais, qui critiquent l'évolution de la langue et qui voudraient protéger les Français de ces évolutions de société qui sont incarnées par des grandes modifications structurantes de la langue française. Par exemple, les mots en anglais, par exemple, les mots qui décrivent des pronoms, des mots, des noms non genrés, ou encore l'écriture inclusive, qui sont autant de sujets qui font l'objet de controverses et de critiques qui nous montrent qu'on est en train de perdre, oui, méfiez-vous, votre identité français ou francophone, parce que vous êtes bien trop influencé dans les langues. Et en fait, c'est un discours qu'on entend souvent, régulièrement, parce que des mots rentrent dans les dictionnaires et on nous dit ah mais vous vous rendez compte, enfin les dictionnaires intègrent ce type de terme, donc ça montre bien que la culture française s'efface. Bon, et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est de reprendre le point de vue des linguistes, et eux ils en ont vraiment mais ras la casquette de ce type d'article et de ce type d'apparition dans la presse, et donc ils ont sorti un tract qui est disponible pour quelques euros sur le site d'ailleurs de Gallimard, c'est les tracts Gallimard. Ils ont créé un collectif, ça s'appelle les linguistes atterré, et le titre « Le français va très bien, merci ». Et du coup, je me suis approprié ce tract et je l'ai dévoré, je l'ai bu et je l'ai bu comme du petit lait. Vraiment, je me suis approprié le document parce qu'il y a plein d'idées conçues qui sont démontées et qui sont très, très bien démontées dans ce doc. Je ne sais pas si je vais toutes les passer, je vais être amené à citer quelques passages de ce petit tract. Déjà, et un propos qui peut revenir assez souvent, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Julien, Matt, autour de vous, et ce sera intéressant, évidemment, d'avoir votre point de vue avec une vision internationale, et toi, en plus, Matt, avec cette vision francophone hors France. Le français n'est plus la langue de Molière. Alors ça, c'est un truc qui peut être répété, qui peut être affirmé comme étant une vraie problématique. Et en fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que le français de Molière n'est plus du tout le français qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit dans son vocabulaire, dans son écriture ou dans son phrasé tel qu'il était prononcé à l'époque. Le français a évolué de manière absolument magistrale et je pense même, je ne suis pas certain qu'on reconnaîtrait les propos des textes de Molière de l'époque. Donc bah, du coup, c'est un peu une idée préconçue comme ça que la langue de Molière devrait être protégée. Mais déjà, ça donne une image très figée de la langue française, mmh, alors que bah, par essence, une langue, elle vit, elle change et que du coup, c'est difficile de protéger une situation de la langue française en considérant que voilà, à l'époque, ça aurait été la langue de référence et tout ce qui aurait été évolué par la suite aurait été plutôt négatif. Une deuxième idée préconçue qui est, à mon avis, très communément répandue et surtout qui doit faire grincer des dents à l'international, c'est évidemment le français n'appartient pas à la France. Alors, je ne sais pas si c'est... évidemment, on pourrait prendre le temps d'en échanger, Matt, mais le français, de toute façon, n'existe pas. La langue française, oui, il y a des mots qui sont communs dans le français, dans leur francophonie, mais en fait, il y a plein de variétés de français partout dans le monde. Et là encore, il y a le français qui n'est pas figé dans le temps et qui ne peut pas s'inscrire à une époque donnée comme étant une langue de référence. Mais on ne peut pas dire qu'il y a le français. En fait, il y a plein de langues français et y en a avec plein de cultures différentes et avec une richesse et une variété énorme. Évidemment, ici, dans le tract, la francophonie du Nord que tu représentes ce soir, Matt, D'ailleurs, il souligne un truc que moi j'ai découvert qui m'a atterré. Les tensions prennent parfois la forme de guerres commerciales comme l'embargo, j'ai découvert ça, que la France refuse toujours de lever depuis la Deuxième Guerre mondiale sur toute diffusion vers l'Europe des films en version française réalisés au Québec. J'étais estomaqué, j'ai creusé le sujet, cet embargo n'est toujours pas levé, il date de la Seconde Guerre mondiale. Sache, Matt, qu'un film qui est doublé, qui est réalisé en français, en québécois, a un embargo qui fait qu'on ne peut pas le diffuser en France. Il y a des retraductions, il y a des réappropriations du doublage de ces films-là. J'ai trouvé ça complètement dingue. Alors moi, j'ai été d'autant plus étonné que des films qui sont doublés en français depuis le Québec, j'en ai déjà vu, notamment parce qu'il y a des sites de partage de films. Bon, on les trouve parfois plus facilement quand ils sont doublés en français du Québec. Mais il semblerait qu'il y ait un embargo qui fait qu'on nous empêche de consulter les contenus qui sont doublés, notamment chez vous, Matt.
Est-ce que c'est juste doublé au Québec ou c'est juste l'Amérique du Nord, hein? Tu l'as bien spécifié.
A priori, c'est Québec. A priori, c'est spécifique au Québec. Alors, il faudrait creuser. En tout cas, c'est mentionné comme Québec là dans le tract. Je ne sais pas si c'est plus large, si ça concerne aussi le Canada et les États-Unis. Mais enfin, bon,
quelle honte.
Je trouve ça complètement dingue. On nous parle aussi, tiens, du franglais. Tu sais, c'est un sujet, Matt, qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder ensemble. Je sais, il serait intéressant qu'on revoie peut-être nos positions là-dessus. Mais tu sais, ce français qui pourrait être envahi par l'anglais parce qu'il serait nourri de plein de mots en anglais qu'on utiliserait trop facilement à la place de mots en français et que quelque part, ça amènerait à dénaturer le français. Je cite « Spam, spoiler, dating, ASAP, lol ». Régulièrement, on entend dans les médias les puristes se plaindre de ce qu'ils appellent les anglicismes. Notre langue serait envahie, menacée, abîmée par un usage excessif de l'anglais ou de ce que certains considèrent comme un mauvais anglais, le globish, et un mauvais français, le franglais. Le nombre inquiétant d'emprunts à l'anglais serait le signe de la défaite, de la soumission, de la mise à mort prochaine du français. Les puristes emploient des mots qui font peur, invasion, menace, décrivant les échanges linguistiques en termes guerriers. Et en fait, bah non, là c'est pareil, ce serait sans doute un raccourci un petit peu rapide à faire et qui serait sans doute largement manipulé par des positions politiques qui sont un peu conservatrices. Je continue à citer un peu plus loin dans le document. En français, il y a des emprunts lexicaux selon un processus d'appropriation lent, graduel, dans « je ne vais pas te spoiler ta série ».« Spoiler » n'est pas un verbe anglais, c'est un verbe français du premier groupe terminé par « er ». Surtout, défions un anglophone de reconnaître son verbe spoil lorsqu'un francophone le prononce. La façon dont il le prononce l'a déjà rendu autre. À quel moment un mot cesse-t-il d'être anglais et devient-il français ? Spoiler est-il plus anglais que week-end ? Week-end est devenu un nom français avec un genre masculin alors que l'anglais ne connaît pas de genre grammatical. La lecture nationaliste d'un mot est un contresens car elle néglige l'histoire de notre langue. Nous naissons à un moment donné dans une ou plusieurs langues en oubliant qu'on les reçoit en héritage, qu'elles sont le produit d'une riche et complexe réalité constituée au fil des siècles, la réalité de ce qui se passe quand des langues sont en contact. Et c'est hyper rigolo de voir que dans l'histoire, il y a déjà eu ce sujet, mais pas avec l'anglais. Après l'arrivée de Guillaume le Conquérant sur le trône français au XIe siècle, ces deux langues, donc le français et l'anglais, je reviens un petit peu plus haut. L'anglais et le français sont des langues cousines appartenant à la grande famille linguistique des langues indo-européennes, comme l'italien, l'espagnol, l'allemand, le russe, mais aussi le persan ou l'hindi. Après l'arrivée de Guillaume le Conquérant sur le trône anglais au XIe siècle, ces deux langues ont cohabité pendant plus de trois siècles. On estime à près de la moitié la part du lexique anglais emprunté à l'ancien français ou au normand. Si l'on tient au terme franglais, il convient bien mieux à l'anglais qu'au français. Ainsi, spoiler, par exemple, on revient sur ce terme, vient en fait du français « espoyer », du latin « spoliar ». Notre verbe, notre entre guillemets, hein, verbe « spolier », proche par le sens, ne s'emploie pas dans le même contexte. Si l'on retient un mot, c'est qu'il nous apporte quelque chose, une nuance sémantique, un contexte, la langue a le sens pratique, elle s'emprunte pour s'enrichir. Ainsi, le follower se rencontre sur les réseaux sociaux, mais les clubs de sport ou les magazines ont des abonnés, pas des followers. Faire du shopping n'est pas la même chose que faire des courses. Même au Canada, même au Canada, où les francophones sont les plus exposés à l'anglais, la recherche linguistique montre que la langue d'accueil, le français, n'est pas altérée par les emprunts qu'elle incorpore et digère sans problème. Le contact entre les langues ressemble davantage à un jeu à somme positive qu'à une guerre. Ce que gagne l'une, l'autre ne le perd pas. De même que le vocabulaire de chacune est illimité, les mots ajoutés par emprunt ne remplacent pas les mots existants, ils permettent d'apporter une nuance de sens. Et dans l'histoire, ils vont aussi mentionner ce qui s'est passé à une époque avec l'italien. C'était l'italien qui était une langue de référence en Europe avec laquelle étaient abordés beaucoup de sujets phares. Aujourd'hui, ça peut être la tech, à l'époque, ça pouvait être les œuvres architecturales, ça pouvait être les œuvres artistiques qui étaient portées par l'italien. Et il y avait déjà cette peur à l'époque de l'italien qui pourrait remplacer le français. Donc, vous l'avez compris, les langues bougent. Autre idée préconçue que moi j'adore parce que j'avais suivi les vidéos de Linguisticae et c'est déjà un truc qu'il avait déjà relayé et qui moi me fait maintenant énormément sourire, le français n'est pas réglementé par l'Académie française. C'est vrai qu'il y a toujours ces articles une fois dans l'année où on dit voici les mots de l'Académie française. Alors, voilà. En fait, l'Académie française n'a absolument aucune autorité sur la langue française et pour cause, déjà il n'y a pas un français et c'est pas quelque chose qui est régi par une autorité particulière. L'Académie française, c'est un truc qui a été fondé par Richelieu en 1634 pour renforcer le pouvoir royal, je cite encore, hein, en s'appuyant sur les grands écrivains de l'époque. L'Académie française a alors pour principale mission, comme l'indiquent ses statuts, de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Cependant, en défendant une conception qui confond langue et littérature, l'Académie française propose surtout aujourd'hui une vision trop souvent élitiste de la langue. Depuis le 19e siècle, elle ne suit plus l'évolution de la langue. Elle s'est opposée à la réforme de l'orthographe prévue en 1901 pour accompagner l'accès de tous les enfants à l'école. Son dictionnaire, donc de l'Académie française, seule production annuelle actuelle, en est à peine à sa 9e édition et n'est pas du tout à jour. Ministre est dit non masculin, mariage est défini comme l'union légitime d'un homme et d'une femme. Choses ont évolué depuis. Ouais. Si l'Académie n'est pas à jour sur le vocabulaire, elle ne l'est pas non plus en grammaire. Sa seule grammaire date de 1932 et a été tellement critique qu'elle n'a plus osé en publier d'autres. Donc, désormais, quand vous avez des propos qui sont relayés comme étant ceux de l'Académie française, qui vous dit quel est le bon français à utiliser, mais prenez les plus grosses pincettes qui soient possibles et considérez le fait qu'une langue ne peut pas être régie par une institution comme l'Académie française, qui est quand même constituée de personnes assez décorrélées des réalités de la société moderne et qui n'a donc aucun pouvoir sur la langue. On continue. Le français n'a pas une orthographe parfaite. Alors, je développe pas trop, mais là, ça va vous déculpabiliser si, comme moi, vous avez un enfant qui a des difficultés dans l'écriture de la langue avec énormément de subtilité. C'est vrai qu'en français, on est verni là-dessus. Il peut y avoir énormément de fautes. Et, je cite, là aussi, ça va vous aider peut-être, « Les jeunes n'écrivent pas de plus en plus mal. L'idée d'une décadence du français est loin d'être récente. » En 1909, l'académicien Émile Faguet prétendait que tous les professeurs examinateurs étaient d'accord sur le fait que les jeunes français écrivaient mal. Il n'y a, en réalité, jamais eu d'âge d'or de l'orthographe où une majorité de la population en connaissait les subtilités. Ce qui donne aujourd'hui l'illusion d'une dégradation, ce qu'il existe une myriade de scripteurs amateurs qui écrivent directement sans être relus et que ces productions sont aujourd'hui à la vue de tout le monde. Bref, l'écriture s'est démocratisée et ne passe plus toujours par le filtre d'éditeurs, de correcteurs, d'imprimeurs, contrairement aux époques antérieures. Mais si l'écriture s'est démocratisée, il n'en va pas même de l'orthographe. Donc, il échange sur l'orthographe, il précise « L'orthographe régresse. Depuis des décennies, le nombre d'heures consacrées à l'enseignement de l'orthographe diminue régulièrement. À l'école primaire, donc je pense que c'est spécifiquement en France, mais probablement que ça se vérifie dans d'autres pays où le français est enseigné. À l'école primaire, l'année scolaire a été réduite d'environ un tiers en un siècle et les matières enseignées se sont fortement diversifiées. Langue étrangère, voilà, informatique, etc. Il manque donc des centaines d'heures pour pouvoir enseigner l'orthographe française convenablement à tous les élèves. Dans le contexte actuel, l'enseignement de la complexité de l'orthographe est donc une véritable gageure. À l'école, elle occupe un temps considérable au détriment d'autres matières essentielles et pour un niveau que tout le monde se plaint. Le niveau de compréhension et de lecture des francophones s'en ressent, comme en attestent toutes les études internationales. Il précise, il faut moins de dictées. C'est vrai que pour moi, l'outil de la dictée tel qu'il est enseigné aujourd'hui à l'école est assez déconnecté de la réalité et qu'il faudrait revoir. Je voudrais ton avis, Matt. Petit passage, je cite. « Au Québec, les étudiants en première année à l'université ne font pas de dictée. Ils apprennent à se servir du logiciel Antidote. Si les étudiants français et même les candidats au baccalauréat peuvent utiliser la calculatrice en sciences, pourquoi ne pas autoriser les correcteurs d'orthographe en lettres ? Les situations de la vie privée ou professionnelle dans lesquelles nous ne pouvons pas utiliser de correcteurs ont presque disparu. » Je ne sais pas si c'est vrai, Matt.
Qu'on ne fait plus de dictée en première année d'université ?
Ouais.
J'ai pas l'information. Ouais, c'est ça, j'ai pas l'information. Mais c'est typiquement sur cette thématique-là, il y a vraiment des choses à revoir au niveau de l'éducation avec l'avancée des technologies, effectivement. Encore plus avec l'avancée de ce qu'on peut avoir avec les ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de maintenant.
Bien sûr.
Oui, effectivement. Antidote, oui, ça serait bien. En plus, Antidote, c'est on est un peu chauvin, c'est fait chez nous.
Oui, effectivement. Vous faites la promotion de technologie locale. Vous avez bon, c'est un bel exemple, même à l'international. Antidote est un super outil. Vous avez compris hein, l'influence de la démocratisation de l'écriture qui est beaucoup plus facile aujourd'hui et qui est beaucoup plus accessible par tout le monde, largement aussi grâce aux réseaux sociaux, qui font l'objet d'une autre citation un peu plus loin dans le tract au sujet de l'écriture numérique qui abîmerait le français. Alors ça aussi, c'est une idée conçue qui est démontée dans le tract. Depuis l'apparition des réseaux sociaux en ligne, à la fin du siècle dernier, on n'a jamais autant communiqué par écrit. Des milliards de messages sont échangés quotidiennement sur téléphone, tablette ou ordinateur, y compris par des personnes qui autrefois auraient pratiquement cessé d'écrire après avoir quitté l'école. C'est d'ailleurs la première fois depuis l'invention de l'écriture il y a plus de 5000 ans qu'on peut lire ce qu'écrivent tous les usagers de la langue, de tous milieux sociaux, et qu'on diffuse à large échelle non seulement l'écrit des livres et de l'élite, mais également un écrit libre, spontané, qui se construit en même temps que les usagers s'approprient les nouveaux outils de communication disponibles.
C'est peut-être ça aussi le problème.
Alors, ça fait partie, en tout cas, je ne sais pas si ça fait partie du problème, mais ça fait partie de la situation qui fait vivre la langue telle
oui.
qu'elle l'est aujourd'hui. Hein.
Oui, 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 oui. Ben, si on, dans la perspective de la langue, oui, dans la perspective de l'information, de la bonne information et des conneries, d'entendre Gérard sur les médias sociaux avec un mégaphone comme il peut avoir maintenant, c'est pas la même chose. Mais oui, effectivement, ça débunke, là, je vais me permettre, ça débunke certains mythes.
Exactement, mais t'as raison, sur l'information de fond, ça ne remet pas en cause le reste. Donc le français sur Internet et les réseaux sociaux n'est pas un mauvais français. Mais là aussi, moi, je pourrais vite tomber dans ce raccourci. De même qu'on parle différemment selon les contextes, plusieurs genres d'écrits sont possibles et même nécessaires selon les situations. On adapte son expression notamment parce que les affects et l'humour n'ont pas la même place quand on écrit aux amis, à des inconnus, sur un réseau social ou à des collègues. Dans les écrits numériques tels que les SMS ou les discussions en ligne, on échange le plus souvent avec des proches. On a donc souvent recours à des tours familiers et à des écritures plus ou moins standardisées qui permettent des échanges rapides et spontanés, proches du rythme de la conversation orale. À ce titre, le français des écritures numériques n'est pas un mauvais français. C'est simplement l'une des multiples variétés de français qui existent aujourd'hui. J'adore cette vision des choses. Je la trouve tellement belle et tellement déculpabilisante et surtout, elle permet de contrer toutes les réappropriations et je vous assure que c'est mortel, quoi, quand on voit ce qui se passe, les réappropriations de positions politiques sur ces sujets-là. Je trouve ça génial. J'ai peut-être terminé parce qu'il y a encore d'autres sujets, mais je pourrais être vraiment dithyrambique à citer ces extraits de ce bouquin que j'ai dévoré. C'est quelques pages, hein, mais vraiment, c'est captivant. Je termine là-dessus parce que c'est vraiment un truc qui me parle beaucoup. Je suis sûr que ça vous parle à vous aussi. Les émojis. Oui. Ils augmentent l'écriture, ils ne la remplacent pas. L'importance des émojis et des émoticônes au sein de nos messages n'a cessé de croître depuis leur introduction sur les téléphones portables. D'une grande souplesse d'emploi, ils peuvent simplement redoubler une information déjà exprimée. Je t'aime aussi grand comme ça, émoji cœur qui grandit, émoji cœur avec émoji cœur. Pas facile à dire comme ça à l'audio, mais vous me visualisez. Ou remplacer
visuellement
un mot.
Ou courgette.
Ou remplacer visuellement un mot, nos ados sont des emojis anges, non, plutôt des petits diables, emojis petits diables. Mais ils sont aussi parfois nécessaires pour adoucir le ton d'un message. Hihi, j'ai pas envie de travailler, alors t'engueuler, c'est fun, avec un petit smiley clin d'œil. Ou en indiquer le caractère ironique, ce que ne permet pas la ponctuation ordinaire. Super, merci, t'es trop gentille, emoji en colère. D'une manière générale, si les emojis connaissent aujourd'hui un tel succès, c'est parce qu'ils permettent de compenser à l'écrit l'absence des mimiques et des gestes si importants à l'oral. En revanche, les emojis ne sont pas à même d'exprimer l'abstraction ni les nuances de la pensée complexe, ce qui rend peu probable qu'ils supplantent prochainement la communication verbale. L'emoji ne constitue pas davantage une écriture universelle. De nombreux signes possèdent en effet un sens variable d'une culture à l'autre, voire d'un locuteur à l'autre, et le même emoji peut se comprendre de manière très différente dans des contextes très distincts.
Par contre, le gif animé, lui.
Alors, ils n'en parlent pas parce que ça fait pas... C'est marrant, mais je ne sais pas si c'est associé au même titre que les emojis à un élément constitutif de la langue. Mais tu as raison, c'est une belle question à soulever.
C'est plus difficile à mettre dans un livre.
J'ai pas entendu, Julien.
C'est plus difficile à mettre dans un livre.
C'est plus difficile à mettre dans un livre, effectivement. Quoi qu'il y a des livres maintenant animés... donc voilà, tiens, un petit quiz pour vous. Est-ce que vous savez combien il y a de voyelles en français, Julien, Matt?
Oui. Attends un peu, 30 secondes. Combien de voyelles en français? Combien il y en a, Guillaume?
Allez, c'était un piège. La plupart du temps, on apprend qu'il y a 6 voyelles en français. A, E, I, O, U, Y. Que les mots sont séparés par des blancs ou espaces. Qu'une phrase commence par une majuscule et finit par un point. C'est une représentation complètement faussée de la langue. Le français compte au moins 14 voyelles. Le OU, les voyelles nasales ON, EN, UN. Le E de jeu différent de E de sœur. Les mots se suivent à l'oral dans un flux sonore continu et les phrases se reconnaissent à leur mélodie. Les linguistes étudient depuis longtemps le français parlé dans les vastes bases de données orales transcrites. Ils y observent des évolutions, la disparition progressive de ne pour marquer la négation par exemple. Le plus souvent, les mêmes qu'à l'écrit d'ailleurs, mais à des vitesses différentes. C'est cela qu'il faudrait aussi enseigner. Je vous fais une petite confidence. Quand Guillaume Poggiaspala prépare les conducteurs des épisodes Tech Café, il met des négations et il ne met pas les nœuds dans les négations. Et je suis tellement zinzin, je le corrige. Je le corrige en amont dans le conducteur, ou je le corrige parfois en live quand j'ai pas eu le temps de corriger avant. Eh ben, je ne le ferai plus. Ce petit bouquin de quelques pages m'a complètement déculpabilisé sur mon rapport à la langue, mon rapport au français, m'a complètement déculpabilisé de voir les articles qui peuvent circuler, comme je vous le disais, très orientés avec des visions politiques très conservatrices, et m'a aussi complètement déculpabilisé sur mon rapport à la langue et au français pour mes enfants dans le cadre de leur école. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce bouquin qui est disponible pour 3,89€. Le français va très bien. Merci.
C'est acheté. c'est déjà sur ma Kindle. Alors, ça va être ma lecture de ce soir.
Ça se lit vite en plus. Hein.
Et sur le site de l'Office québécois de la langue française, on compte 16 voyelles phonétiques en français.
Ah, tu vois, bien joué. Ils sont bons. Et comme le livre de Mathieu Blanco dont je parlais tout à l'heure, je trouve que c'est un petit guide. Je pourrais tout à fait concevoir le fait qu'on puisse l'acheter en physique pour l'avoir entre les mains et qu'on puisse le prêter ou s'en servir de support de discussion pendant les repas familiaux, etc. Bref, Matt, sans autre forme de procès, tu nous parles de créativité.
Oui, je vais le faire rapidement parce que c'est une suite de tweets. Un thread que j'ai vu sur Internet qui m'a fait bien rire. J'ai des capsules sonores, je vais essayer de faire ça vite. Mais en fait, ça partait d'une image que j'ai vue passer sur Internet où on voit deux portes. Une porte avec plein de gens là, qui veulent savoir comment être plus productif, puis une porte complètement vide avec des gens qui veulent savoir comment être créatif. Et puis, là, après ça, on défile. Et puis, il y a une image là-dedans qui est super intéressante qui dit, je pense que c'est même une parole, une citation d'Einstein qui dit si on veut s'attendre à un résultat différent, faut arrêter de faire les choses comme d'habitude, un truc comme ça. Et puis bon, ben là, après ça, il y a l'image où on voit une entrée et une sortie. Et puis après ça, faut penser différemment si on veut être plus créatif. C'est-à-dire que si on envoie toujours la même entrée dans le cerveau, il y aura toujours la même sortie. Alors, faut avoir des nouvelles entrées dans le cerveau et des nouvelles techniques pour avoir des nouvelles sorties, des nouvelles entrées, en fait. Et puis, ben, typiquement, cette suite de tweets passe par je ne sais pas si vous connaissez le groupe House Mafia, où ils montrent une technique de créativité, c'est-à-dire ils s'enferment tous dans un local et puis ils commencent à faire des bruits, à faire un peu n'importe quoi, et puis ça donne un peu ceci que je vous fais écouter. S'il veut, voilà. Alors, là, House Mafia, ils sont tous dans le studio, ils tapent un peu n'importe comment. Ah, il y en a qui appuie sur un synthétiseur, il essaye un truc. Oh! Et vous voyez un peu l'idée, et au fur et à mesure, ben, les gars travaillent et puis en ajoutent. Et puis ça donne à la fin quelque chose d'assez intéressant. Et vous voyez, ça continue comme ça, et à un moment donné, ben, ça donne quelque chose de vraiment. Et là, les gars, là, vous le voyez, à la fin, ça donne un truc comme ça.
Je préfère la fin.
Ouais, ben ouais, c'est sûr. Quand les gars ils commencent à faire un peu n'importe quoi, ben ça donne n'importe quoi au début. Et puis dans cette suite de thread, on voit l'inspiration et la créativité. Faut la voir comme un processus. Il y a une image qui est intéressante, et dans le thread, on vous allez voir comment Christopher Nolan a pensé au début au film Inception. C'est juste assez fou, son guide du début. Évidemment, il y a toujours les bons trucs de toujours être en santé et ainsi de suite. Il y a là-dedans, j'ai pensé à toi, Julien, l'idée de se créer un jumeau maléfique pour stimuler sa créativité. Alors, on en revient au jumeau maléfique. Imaginez qu'il y ait un jumeau identique et maléfique dont le seul travail est de vous surpasser. À quoi pense-t-il? Cet exercice de pensée permet à l'esprit d'explorer des idées créatives parce que vous pouvez blâmer votre jumeau. Alors, ça fait partie des pistes de créativité. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, vous prenez une roulette russe, pas une roulette russe, une application où vous pouvez sélectionner des phrases et puis les recueillir là-dedans et faire tourner la roulette pour la faire tourner le matin pour vous donner un truc à réfléchir tout le long de la journée pour, après ça, en fin de journée ou même dans la nuit, quand vous allez commencer à dormir, avoir des pistes de solutions ou des pistes de créativité. Et ça, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Un truc que j'ai appris, le Japon, c'est un des pays qui est le plus... où les touristes vont le plus parce qu'ils se font complètement dépaysés. Ça vient historiquement du Sakoku, une période de 265 ans où le Japon a été complètement coupé du monde extérieur et ils ont développé leur propre culture pendant cette période-là, ce qui fait que quand on arrive au Japon, on est complètement dépaysé parce que c'est complètement différent des autres. C'était comme un... Ils appellent ça comme un jeûne intermittent de l'esprit, OK? Fait qu'ils ont vraiment coupé les ponts. Ils se sont réinventés et après ça, quand ils ont ouvert les ponts avec toute la planète entière, ils étaient complètement différents. Et à l'ère interconnectée, vos pensées vous ressemblent les unes des autres, hein, c'est sûr. Mais quand vous allez dans un lieu ou un endroit ou dans des strates complètement différentes, vous risquez de penser. Alors l'idée aussi, un des trucs, isolez-vous de l'externe. Pour pouvoir vous réapproprier votre créativité. Un journal d'humeur, ça peut être pratique, ça, quand vous êtes au niveau de la recherche de la créativité et puis pour voir un peu quand vous êtes plus créatif. Alors, vous pouvez, dès que vous trouvez que vous êtes un peu plus créatif, notez la date. Hein, qu'est-ce qui en était les causes la nuit précédente? Aviez-vous fait de l'exercice? Et juste noter comment se déclenche chez vous votre créativité. Ça aussi, ça peut être un bon truc. En dernier, je vais vous le faire jouer parce que c'est vraiment, vraiment cool. La pensée créative peut se par analogie, pourrait se comparer à un tuyau d'arrosage. Hein, tu sais, un tuyau d'arrosage que tu as à la maison. Au début, quand tu veux faire avoir de la nouvelle eau fraîche, ben il y a de la vieille eau qui sort au début de ton tuyau. Hein, quand tu l'ouvres, il y a de la vieille eau qui pue un peu, le caoutchouc. Hein, bon. Alors, ben, l'idée en arrière de la créativité, c'est d'ouvrir le tuyau et de pas juger ce qui va sortir, juste de sortir au début un peu n'importe quoi, comme le tuyau, et après ça, on devrait et on va avoir des choses qui sont un petit peu plus différentes de ce que vous auriez vu. Je l'ai dit un petit peu mal, mais vous allez écouter John Mayer, qui est le chanteur de son propre groupe, parce qu'il s'appelle John Mayer. écoutez-le avec Shapiro. C'est des émissions que vous pouvez avoir sur Apple Music, sur l'Apple Music TV. Vous pouvez l'avoir aussi sur iTunes, je pense, là, mais moi, je l'ai sur Apple Télé. Et écoutez la capsule qu'il fait. Ça dure 2 minutes. Il dit un peu n'importe quoi. Au début, je vous le traduis, il dit un peu n'importe quoi, il regarde le coin de mur, puis il chante sur le coin de mur, puis boum, 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 boum. Et vous allez voir, au début, c'est vraiment du n'importe quoi, et après, ben, ça devient une belle chanson. Et il l'a fait en live, alors c'est vraiment assez impressionnant. Right now, you and I, and you would reach for a guitar, as, yes, as you do right now, and you would sit there, and
I'll pick up the guitar.
You pick up the guitar,
yeah.
And your immediate feeling would be to do what?
Well, I don't always do it, because it requires a stupid bravery, mm-hmm, all the time, but you could sit here all day. You can go, okay, maybe that's something, but if you don't go, sunlight's beating on the corners of the walls, and I'm a Mr. Know-it-all, heaven calls, get yourself right now. If you're not Ouija boarding immediately, you don't.
Crazy.
You're wasting time.
You're such a weirdo, man. Because on the one hand, you know, you have this really very aware part of who you are in terms of being able to you know analyze and move things through and construct and process, which is what all human beings do. But you seem super hyper aware of it.
Yes.
And yet, in process like that, you're like a different human being.
Yes. You just go into. When I work it out. Get on. And just stare at the corner of the wall. Stare at the corner of the wall. Try to get it going on, but I can't call out. You just keep going till you get something. And maybe I'm a little bit shy. Maybe someday I'll tell you why. Because I don't know. I mean, it's all stuff, but you gotta keep forcing it.
Go get it from. Vous entendez Shapiro qui est complètement ébahi. Et puis, il fait son son sur sa table de mixage. Il est complètement éclaté, là, dans le sens où, ben, vous avez entendu John Mayer se vider l'esprit, vider ses mauvaises idées. Et après ça, ben, les bonnes idées ont commencé à apparaître. Et puis, ben, les bonnes notes. Et puis, peut-être les bonnes paroles. Et puis, ben, il a dit tout ce qui passait à travers son esprit. En gros, cette suite de tweets est vraiment super intéressante, avec plein d'exemples différents sur, parce qu'on est tous différents, sur comment on peut retrouver ou aller chercher de la créativité sans forcément avoir peur du jugement des autres.
Trop bien. Est-ce que tu as l'impression, toi, que ça t'a donné des pistes pour être plus créatif, Matt, ou...
Ouais, le tuyau d'arrosage, le tuyau d'arrosage, ça me parlait bien, ouais.
L'odeur de l'eau qui pue le plastique au début, j'avoue. Julien, ça te parle aussi? Est-ce que toi, tu as le sentiment de devoir trouver des pistes comme ça pour être créatif, ou est-ce que les choses viennent naturellement de ton côté?
Non, je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez peu créatif, mais par exemple, quand je commence à cuisiner... Et ben là, tu vois, ça vient au début, si je pars avec une idée un peu, c'est pas trop, mais bon, et puis tu continues à gratter, puis tu commences à cuisiner 2-3 trucs, puis tu dis, attends, il manque un truc, ah ben attends, j'ouvre le frigo, ah ouais, oh ouais, pourquoi pas, ouais. Puis ça vient, et tu vois, alors pour la cuisine, j'ai trouvé mon truc, ça devient à peu près normalement, mais par exemple, la musique, je suis une pelle, enfin, pour plein de trucs, j'ai vraiment du mal avec la créativité, mais bon... Parfois, c'est... justement, j'aime bien aussi l'idée du duo d'arrosage, quoi. Tu prends un bout de papier, tu commences à faire une mind map. Au début, ça fait un peu pourri, puis tu continues à tirer le fil, et puis au bout d'un moment, ça commence à pied. Il faut juste, les brainstorming, c'est souvent comme ça. Au début, on balance plein de trucs, et puis on balance plein de trucs sur un mur et on voit ce qui colle, comme on dit en anglais.
la technique des petits pas, hein, de toute façon, de commencer à faire quelque chose, d'enclencher la machine pour voir aussi ce qui est restitué derrière. Trop bien, formidable, merci Matt pour cet instant de créativité et de poésie musicale dans ce podcast. On enchaîne avec une rubrique qui sera, je n'en doute pas, forcément plus courte que la rubrique précédente avec nos quelques dossiers. Moi je voulais mentionner, alors j'ai eu l'immense joie, maintenant les mises à jour sont automatiques sur les smartphones et les tablettes, et alors bon voilà, j'ai lancé Pocket comme je le lance régulièrement, et béni ce jour où j'ai lancé Pocket avec une interface remaniée. Oh, ça change pas grand chose, mais je suis sensible moi aux interfaces graphiques des applications, et bah je sais pas, le truc est plutôt bien classé, ça donne envie de lire ce qu'il y a de marqué dedans, donc ça me redonne encore plus envie d'utiliser Pocket, qui est vraiment une application coup de cœur que j'utilise depuis des années. Je voulais en profiter pour vous faire une petite recommandation. On en arrive à une période de l'année d'un point de vue professionnel qui pourrait être assez intéressante pour se poser quelques petites questions avant l'arrivée de l'été. Et puis accessoirement, c'est une partie de mon boulot moi aujourd'hui d'accompagner des personnes pour bien communiquer sur LinkedIn. Je suis tombé sur un article de The Wired, sur la manière dont on peut mettre à jour un profil LinkedIn. En fait, vous allez en trouver plein, hein, des articles qui vous disent, ou même vous demandez à ChatGPT, hein, donne-moi 10 astuces pour optimiser mon profil sur LinkedIn. J'avoue que c'est vraiment un réseau social que j'aime de plus en plus, parce que il y a énormément, certes, d'artificiels et de gens qui donnent la phrase inspirante du lundi ou le témoignage de vie professionnelle qui a changé sa vie et donc je suis devenu entrepreneur parce qu'après tout, se mettre en risque... Bon, c'est chiant. Ces aspects-là sont chiants. Mais si tu mets de côté ces aspects qui sont un peu caricaturaux, présents, mais un peu caricaturaux dans LinkedIn, c'est aussi un super espace d'échange qui a trait à un environnement professionnel. Et j'allais dire, parce que plus que n'importe quel autre réseau social, je ne sais pas ce qui fait cette exception de LinkedIn. Encore une fois, hein, derrière toute cette caricature de l'image du monde professionnel qu'on peut avoir, ça reste un environnement hyper intéressant pour discuter de plein de sujets. Il y a les groupes aussi qui sont hyper pertinents. Et c'est quand même là où vous retrouvez plein de vrais gens que vous pouvez avoir dans votre environnement pro. Donc voilà, bon, vous trouverez ce lien de Wired, mais vous en trouverez plein d'autres sur LinkedIn qui vous explique comment mettre un petit ripollinage de votre profil LinkedIn. Mathieu Faraday.dev, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle trouvaille?
Ben, en fait, moi j'écoute beaucoup Tech Café. Hein,
oh,
Tech Café,
quel homme de qualité tu fais.
On parle de modèles que vous pouvez installer sur vos ordinateurs. Et puis quand je clique sur les liens, je me retrouve tout le temps sur des GitHub où il faut que je fasse des trucs à n'en plus finir. Mais en même temps, tu sais, je suis intrigué, j'aimerais ça avoir un modèle, un exemple, en tous les cas, un ChatGPT ou un truc comme ça en local, comme fait Guillaume Podgespala. Ben, j'ai trouvé, ça s'appelle faraday.dev, allez sur le site, c'est un truc que vous téléchargez en local. Après ça, vous téléchargez le modèle qui vous convient, qui va bien. Alors, ça marche sur Windows, ça marche sur Mac, ça marche même sur Mac M1. Et puis, tout dépendant la force de votre ordinateur, vous allez pouvoir télécharger ou pas des modèles plus compétents les uns que les autres. Et puis, ben, c'est le moyen que j'ai réussi à avoir pour avoir un ChatGPT-like en local sur mon ordinateur. Alors, ça marche pas aussi bien que OpenAI, le ChatGPT. Hein, c'est une blague de dire d'installer ChatGPT. On installe des modèles de LLM. Mais en vrai, des fois, ça peut être bluffant d'avoir ça en local. Et puis moi, je connais quelqu'un moi qui fait un podcast où il aime ça avoir des applications en local. Alors, je me dis que ça peut être intéressant pour lui de l'avoir chez lui en local.
Julien, tu vas télécharger faraday.dev, non?
Peut-être.
Est-ce que c'est assez réactif, Matt, à l'usage? Est-ce que ça va assez...
Écoute, moi, j'ai un M1 avec 16 gigs de RAM. La première fois... Alors, vous l'installez, c'est super rapide. Après ça, il faut télécharger des modèles. Un modèle est entre 4 gigs et 40 gigs. OK? Il vous le dit bien hein, quand vous ouvrez Faraday. Ce modèle-là, tu ne pourras pas le télécharger ou ça va être... Ce modèle-là, il va être long. Tu ne pourras pas l'exécuter, en fait, excusez. Ou ce modèle-là va être trop long quand tu veux l'exécuter. La première fois que vous l'exécutez, effectivement, certains modèles, c'est long. Mais après ça, ça va assez vite. Alors, ça vaut la peine d'essayer pour s'amuser. Il y a des modèles qui sont avec aucune censure. Alors, je vous le dis tout de suite, allez vous amuser. Il y a des modèles très drôles.
les usages qui sont pas forcément disponibles partout, vous les trouverez plus facilement sur votre propre ordinateur. On termine avec une de plus, super cool app pour apprendre l'anglais.
Oui, ultra contemporaine. Alors, pour ceux qui aiment beaucoup les téléséries américaines, les gifs animés, en fait, ben, la culture de maintenant, hein, on va dire ça comme ça, ben, je vous propose Ewa, qui est une application pour apprendre l'anglais. Je suis dans la version gratuite de quelques jours. Et, ben, je trouve ça cool parce que vous avez des téléséries à écouter, des films à écouter, des trucs assez mythiques, des fois du Friends, du Seinfeld, et puis ben vous apprenez l'anglais avec ces bonnes vieilles téléséries, et puis ben vous répondez à des questions, et puis il y a la partie gif animé qui peut être drôle. Qu'est-ce que fait ce gif animé-là?
Excellent.
Ils prennent des Big Bang Theory, par exemple. Ils prennent des trucs comme ça. Et c'est vraiment très contemporain si vous voulez apprendre l'anglais. Vous ne sortirez pas de votre zone de confort pour cet aspect-là, mais au moins, vous sortirez de votre zone de confort pour apprendre l'anglais.
Trop bien.
Ou une autre langue.
C'est payant?
Oui, c'est payant. Je vous conseille fortement de l'essayer avant. Vous avez quelques jours où vous pouvez l'essayer gratuitement. Mm-hmm. Je ne sais pas si je vais continuer parce que là... Ça serait la troisième application que je paye pour apprendre l'anglais. Un jour, je vais l'apprendre puis j'aurais plus besoin d'avoir des applications. Mais je ne sais pas si je vais la garder, mais je voulais la partager parce qu'elle valait la peine, celle-là.
Ouais, puis ça donne une proposition de valeur complémentaire à tout ce qu'on a pu relayer jusque-là. Bon, on va terminer cet épisode de ReLife avec quelques éléments d'inspiration. Monsieur, je suis allé voir Spider-Man Across the Spider-Verse au cinéma. J'avais vu le premier parce que mon fils m'avait harcelé pour que je voie le premier sur Disney+. Il a bien fait de me harceler parce que ça fait vraiment partie de ces œuvres qui, d'un point de vue créatif, tu parlais de créativité tout à l'heure, Matt, sont hyper intéressantes parce que visuellement, j'ai jamais vu ça. Il y a un mélange entre du rendu graphique type assisté par ordinateur, comme on peut le voir aujourd'hui avec les Pixar, les longs métrages créés par ordinateur en 3D, mais mêlé aussi à des zones extrêmement proche de ce qu'on peut retrouver en peinture, avec aussi d'autres artifices de ce qu'on peut retrouver dans les comics américains, restitution graphique. Et puis, il y a les onomatopées qui apparaissent de temps en temps. L'histoire est hyper fun. On passe un super moment. C'est hyper émouvant. Moi, j'ai eu des émotions de dingue. Les musiques sont hyper bien choisies. C'est génial. Donc déjà, allez regarder sur Disney+, le premier Spider-Man, si vous ne l'avez pas vu, le film d'animation. Avec Miles Morales et vous pouvez regarder sans famille à partir de 8 ans, c'est franchement tout le monde s'y retrouve et tout le monde s'y retrouve pas comme pour les Disney où il y a voilà des codes de lecture pour les adultes, une histoire parfois un peu bon. Vraiment, c'est très original et tout le monde en prend plein la gueule. C'est hyper bien fichu. Et au cinéma, si vous avez l'occasion d'aller vous jeter sur Across the Spider-Verse, donc la suite, ben, allez-y, parce que vous allez passer un moment de fou. Vraiment, d'un point de vue créatif, c'est complètement dingue. C'était ma petite recommandation de la semaine slash inspiration. Matt, tu as une recommandation qui fait suite à des échanges qu'on a eu avec Julien par le passé.
Oui, encore une fois, je vais vous jouer une petite capsule audio qui vous explique ben, comment fait le homard, en fait, pour... ben, on était dans les huîtres, hein, dans les épisodes, alors je vais aller dans les crustacés, moi aussi. Et là, il vous explique comment vous allez changer votre perspective par rapport au stress. Et puis, on y reviendra après, parce que j'ai une petite mise en garde, mais je vous la fais quand même, je la trouve intéressante.
I was sitting in a dentist office and looked at an article that said, how do lobsters grow? I don't care who's grown.
On s'en fout.
But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine.
never comes off its shell. So I think that we have to realize is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity.
Bon, alors, il y a une mise en garde que je voulais vous faire à la fin. Bon, ce que dit cette personne dans cette capsule-là, sur un tweet, encore une fois, que j'ai déroulé dans ma journée, c'est que ben, le homard évolue quand il se sent inconfortable dans sa carapace. Sinon, il grossirait pas. Alors, de la minute qu'il y a un stimuli de stress, ben, il se met à grandir. Hein, il se cache et il refait sa carapace, en gros. C'est un peu ça. Puis, l'idée en arrière de ça, c'est que... vous pouvez grandir quand vous êtes inconfortable, quand vous essayez des nouvelles choses. On l'a parlé dans la créativité précédemment, on revient un petit peu là-dedans. Ce que j'aime moins dans cette capsule vidéo-là, c'est que ben il dit quand vous vous sentez inconfortable, maintenant vous allez voir un médecin, vous avez une prescription et puis après ça, vous grandissez pas. C'est pas tout à fait là où je voulais aller, ouais. Mais quand même, je trouve que l'idée est intéressante du homard qui, de la minute qu'il se sent stressé, ben, c'est comme ça qu'il peut grandir. Et j'aime cette image-là. Retenez juste ça, c'est cool.
Ouais, il ne faut pas que les charlatans réutilisent cette histoire et cette allégorie pour promouvoir le fait de ne pas aller voir le médecin et au contraire d'utiliser des thérapies alternatives parce qu'après tout, ça vous fait du bien. Mais ouais, c'est un bel enseignement, j'aime bien. Merci Matt. Julien, est-ce que tu penses qu'on retrouve le Seigneur des Anneaux sur l'app d'apprentissage d'anglais de Matt?
C'est certain. Très certainement. Très certainement. Donc ouais, moi je voulais terminer sur une petite citation du Seigneur des Anneaux. Comme je disais, je suis un peu en retour aux fondamentaux en ce moment, comme sourd en fait, j'ai l'impression cette année. Mais voilà, je me pose pas mal de questions sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer du temps à regretter le passé ou à être anxieux sur le futur. Et bref, et entre deux voyages et semaines de boulot, j'ai réussi à me regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux en seulement deux week-ends.
Longue.
Bien évidemment, version longue sur ma super télé 4K, c'était incroyable. Et voilà, et du coup Gandalf est venu à ma rescousse. Il m'a dit une quote qui m'avait déjà sauté un peu à la figure une fois, mais cette fois elle m'a vraiment choqué par par le fait qu'elle tombait vraiment à point. C'est all we have to decide is what to do with the time given to us. Tout ce qu'on a à décider, c'est que faire du temps qui nous est donné. Et voilà, ça revient un petit peu à l'épisode précédent avec mon alter ego maléfique qui se pose pas trop de questions et qui se dit allez, tu sais quoi, on y va et puis on va voir ce que ça donne. Ça me parle pas mal, donc voilà, ben, je vais continuer à essayer de me poser pas trop de questions et juste si ça te fait plaisir, mais vas-y.
Tu sais ce que j'aime bien dans cette quote là, c'est l'idée du mouvement aussi. Tu sais, c'est de pas rester sur tes tout ce que tu as à faire, ce que tu as à décider dans le fond, là, c'est ce que tu as à faire du temps qui te reste à vivre. Je pense même Steve Jobs avait fait ça dans sa présentation à Stanford. Je pense que c'était une phrase qu'il avait dit aussi. Et puis ça, j'aime ça.
Stay hungry, stay foolish.
Ouais, c'est ça.
Je suis beaucoup en train de me poser la question en ce moment de notre rapport au temps. Enfin, moi, c'est un truc qui m'obsède un petit peu en ce moment sur le temps qu'on a dispo, la guerre de l'attention, le temps qu'on a dispo dans une journée, dans le présent, mais aussi au sens large au niveau d'une vie. Et c'est sûr que ça fait écho à toutes les questions que je peux me poser en ce moment, Julien. Et bon, oui, c'est une belle façon de le dire. Et puis quand c'est Gandalf qui le dit, voilà quoi, ça force forcément à se poser la question de manière plus profonde. Merci beaucoup, Julien, d'avoir pu participer à l'enregistrement de cet épisode. Merci à toi, Matt, pour la préparation de cet épisode 135 de ReLife. C'est toujours un immense plaisir pour nous de passer ce petit instant, je pense, tous les trois, mais aussi de savoir que vous nous écoutez et que vous êtes quelque part un petit peu à nos côtés quand vous écoutez ces épisodes de podcast. Vous avez vu qu'on a raté le coche un peu de la régularité. Il était question, voilà, qu'on fasse un épisode avec Matt en début de semaine. On n'a pas pu le faire, mais culpa, Julien était pas là, en fait il se remet là, bref, allez, on compte sur vous en tout cas pour continuer à nous faire vos retours parce que c'est aussi beaucoup ça qui nous encourage. Quand on sait qu'on est écouté, quand on sait qu'on a des interactions, c'est autant de motifs de remonter ReLife dans la pile de nos priorités quotidiennes et dans le temps qu'on peut y consacrer. Donc un immense merci à vous, redoublez de présence, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via les messages sur le répondeur que vous pouvez déposer en allant sur relivepodcast.com. Vous avez un bouton qui vous permet très facilement de le faire, un message vocal vocales d'une minute. On a toujours un immense plaisir à les écouter, à les rediffuser durant les épisodes et à y réagir. Donc si vous jamais voulez nous solliciter, c'est le plus simple. Vous pouvez aussi, au moment même où vous entendez ces quelques mots, aller déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. L'enjeu numéro un, on va pas vous mentir, c'est pas de favoriser un algorithme qui viendrait préconiser Relife dans les apps de podcast plus que d'autres podcasts. Quoique, mais c'est aussi et surtout pour les personnes qui tomberaient sur Relive, qui auraient besoin de savoir si c'est un podcast un peu laissé à l'abandon, pas très intéressant, pas très bien fait. Non, c'est pas vrai. Il est fait avec une grande qualité, avec des personnes de valeur, et ça, on compte sur vous pour le dire, pour que les autres personnes qui découvrent Relive en soient convaincues. On vous rappelle
avec des crustacés à l'intérieur d'ailleurs.
Avec des crustacés à l'intérieur, que ce soit des homards, des huîtres, il y a un petit peu. On va vous placer le plus de crustacés possible. Peut-être même qu'on va mettre des crustacés dans la future jaquette de Relife. Attention, on va se poser la question. Et puis, bien sûr, si jamais vous voulez nous soutenir encore plus, faire partie du top level des soutiens, rendez-vous sur patreon.com/relifepodcast et vous aurez toutes les infos pour nous soutenir, nous accompagner financièrement à la hauteur de vos possibilités et faire de vous des auditeurs premium dans une relation privilégiée avec nous. On aura grand plaisir à voir vos soutiens et vos encouragements pour gagner en régularité. Julien, tu étais de passage dans cet épisode de Relife alors que ce n'était pas prévu et tu es présent pour toute cette saison et durablement, j'espère, pour Relife. Où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors des épisodes de Relife ?
Et durablement, j'espère. Et donc, quand je suis pas dans Relive, je suis dans Agilist, le podcast francophone de l'agilité. Et puis, voilà, vous pouvez retrouver tous mes liens, mes projets sur julien.terret.fr.
Merci infiniment, Julien. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver à part dans un prochain épisode d'Apple différemment / Tech Café où on va vous parler des nouveaux casques de réalité virtuelle, réalité augmentée absolument dingue d'Apple?
Ouais, tu pensais me bloquer avec Apple. Ben, j'ai un autre truc, Apple. Ça s'appelle Apple et compagnie. C'est ma chaîne YouTube. Et maintenant, je suis fier de dire que je suis partenaire YouTube.
Bravo.
Et que je grappine quelques centimes à chaque jour. Et c'est déjà ça.
Ça veut dire quoi, partenaire YouTube? Ça veut dire que tu touches de l'argent avec de la pub? Non, c'est quoi?
Voilà. Moi, la YouTube Money, je suis embarqué dans la vibe. Et je dépense à... Non. En fait, c'est que oui, j'ai le droit maintenant d'afficher de la publicité et d'avoir une partie de cet argent-là. D'avoir des stickers, d'avoir des dons directement sur ma chaîne. Ce qui fait qu'à terme, j'aimerais peut-être faire un autre complément pour faire juste la création de contenu. J'aime ça beaucoup.
Trop bien. C'est à partir de quand que tu as les fameux cadres, là, avec le truc en volume YouTube, là?
Alors, YouTube, t'en payes un à partir de 100 000, mais t'en payes qu'un. Alors, ce que les YouTubers font, la connerie, ouais, c'est ça. Ce que les YouTubers font, c'est le premier 100 000, ils prennent YouTube, mais après ça, les autres sont payants. En fait, alors, si t'arrives aux 200 000, 500 000, 1 million, il va falloir que tu les payes. Alors, je vais attendre le milliard, moi, et puis il va me le payer, YouTube. Hein.
Mais les 100 000, Matt, les 100 000. On compte sur tous les auditeurs de Relife, en tout cas, pour s'être abonnés à Apple et compagnie pour augmenter ton nombre d'abonnés. Et évidemment, regardez tes vidéos, hein, c'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Julien. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous.
Ciao, ciao.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relife. On est votre podcast. Attendez, je vais la refaire, laissez enregistrer.